I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Marine Gora.
Par exemple, au tout début, on a commencé à travailler avec Nanina et vraiment, c'était, j'étais folle d'eux. On habite juste à côté et le jour où j'ai goûté leur ricotta, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et en fait, je parle toujours de Nanina parce que ça me fait, c'est un exemple super parlant dans le sens où ils font un produit italien, leur laboratoire est dans l'11e, leurs bufflones sont en Auvergne. Enfin, et en fait, tu retrouves tout ça, mais à Paris finalement, et c'était vraiment ce qu'on voulait faire et par cuisine parisienne. C'était vraiment ne pas se donner de limites, pouvoir faire de la cuisine asiatique, méditerranéenne, française, sans se donner de barrières.
Marine Gora est la chef et cofondatrice de Gram, ce génial coffee shop et bien plus du 3e arrondissement. Tout ce qui sort de sa micro-cuisine est la preuve du talent de Marine qui fignole de vraies assiettes cuisinières, singulières et exquises, à la fois ancrées dans leur territoire et dans son histoire à elle. Avec son conjoint Romain, avec qui elle a ouvert le lieu, ils ont su rebondir pendant la fermeture des restaurants et proposer avec cohérence un peu de leur univers en takeaway et en delivery. Avec Marine, nous avons parlé de chefs inspirants, de musique et de bad me dog. Le partenariat avec Elle à table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Marine.
Bonjour Julie.
La première fois que j'ai déjeuné ici, c'était un bad meat dog, je m'en souviens encore. Ça m'a fait penser à Moconuts, le mini format, petit et mignon, très incarné. Le fait que vous soyez que tous les deux avec des propositions très identitaires... On sent que c'est pas un coffee shop lambda, en fait, qu'on arrive ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez... Est-ce que c'est comme ça que vous aviez imaginé Gram?
En tout cas, avec du recul, c'est... Le format de Gram, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait imaginé. L'objectif, c'était de trouver un petit restaurant, un petit local, maximum 30-35 mètres carrés. Avec Romain, on devait tous les deux y travailler, y avoir un poste. Et ensuite avoir une équipe, et c'est vrai qu'au tout début on a commencé à deux, il y avait la maman de Romain qui nous aidait, et après très vite on a eu besoin d'une équipe. Mais on voulait absolument pouvoir savoir tout faire, et que ce soit Romain et moi qui vous servent en fait.
Ouais, très incarné justement, voilà. Et ce qui me fait aussi penser à Moconut, je pense, c'est le fait que ce soit... effectivement un format coffee shop, mm-hmm. où on boit du café, mais la cuisine c'est bien plus que ça aussi, c'est vraiment très très cuisiné, c'est pas juste de l'assemblage de d'avocado toast.
Ouais, oui, bah voilà, c'est en fait ce qu'on voulait un peu éviter. Comment dire, quand on est arrivé à Paris, quand on voulait ouvrir notre café, il y avait plein de choses qui existaient. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était pouvoir prendre un petit déjeuner salé, Et surtout, autre chose qu'une tartine à l'avocat, qu'un granola, qu'on fait aussi, hein, bien entendu. Mais on voulait une offre un peu plus poussée, et ça, dès 9h. En fait, ce qui nous avait aussi inspiré, c'est qu'on était parti à Londres. Je crois que c'était Koya. On pouvait manger un udon breakfast dès 8h30 du matin. Et ça, je trouvais ça incroyable, quoi. On était parti là-bas, on se l'était fait à 9h du matin. Et on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on veut. Et donc, du coup, par exemple, lors de notre première semaine d'ouverture, il y avait un bol comme ça avec du riz, avec un bouillon miso qui était totalement inspiré, en fait, de cette adresse-là à Londres.
Et pourtant, vous venez pas du tout de l'univers de la cuisine, ni l'un ni l'autre. Donc, Romain, il faisait du conseil et toi, tu étais chef de produit, si je ne me trompe pas, chez Universal Music.
Ouais, chef de projet, ouais.
Vous avez toujours aimé la cuisine, tous les deux ?
Moi, oui, j'ai toujours aimé la cuisine. Avant, j'étais je travaillais dans le marketing, dans la promo, mais j'ai toujours su que je terminerais ou que j'atterrirais, on va dire, dans la cuisine. C'était mon objectif.
Petite.
Enfin,
plus grande.
Comment dire si on revient un peu en arrière, à la base, j'ai toujours voulu faire de l'hôtellerie. Je voulais faire une école hôtelière. Parce qu'à un moment, j'habitais à Versailles, on a déménagé à Pau dans le sud-ouest, et en fait, il y avait une école hôtelière à Saint-Quentin, en Yvelines. On a dû déménager, on a regardé l'équivalent, et c'était l'école hôtelière de Biarritz, en fait. Et ce pack, entre guillemets, incluait le fait que je doive partir en pension, etc. Donc mes parents, ils ont préféré me garder près d'eux, donc j'ai choisi plutôt le cursus scolaire classique. J'aurais pu commencer dans l'hôtellerie, mais c'était pas de la cuisine, mais peut-être que finalement les choses auront fait que j'aurais vu la cuisine et je me serais dit en fait c'est plutôt la cuisine qui m'intéresse. Ouais.
Et à partir de quel moment tu t'es autorisée à aller dans la cuisine?
En fait, j'ai eu l'occasion de quitter mon poste, on va dire, assez proprement avec un chèque, etc. Et y a eu cette rentrée au Greta Meteor qui était 2 mois plus tard avec les réunions d'information. En fait, tout s'est très, très bien calibré. Donc, je me suis renseignée. Quand j'ai quitté mon poste, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Y avait le CAP en 6 mois. Et hop, tout s'est très vite enchaîné. J'ai été acceptée, je l'ai passé.
Sans trop te poser de questions.
Sans me poser de questions, comme si c'était comme ça, quoi. Finalement, j'étais contente en me disant c'est aussi ça ma deuxième voie, enfin, ou ma voie, parce que j'ai travaillé 3-4 ans avant, donc c'est une reconversion, mais c'est plutôt aussi un réaiguillage ou un complément, finalement.
T'as tout de suite été convaincue par la cuisine?
Oui.
Parce que c'est pas toujours évident de passer du fantasme à la réalité.
C'est vrai. Disons que quand je travaillais chez Universal Music, je faisais 2-3 traiteurs en mon nom. Il y avait un truc qui s'appelait Menu Next Door à l'époque, j'en avais fait avec un copain. C'était plein de petites choses qui me donnaient envie, qui me mettaient un premier pied à l'étrier. Et après, hop, je me suis un peu plus professionnalisée, quoi.
Et Romain, c'est lui qui t'a suivi dans ton délire? Alors, ou il était convaincu aussi?
C'est assez marrant parce que Romain, en fait, personnellement, moi, je voyais les choses comme ça. Je passais mon CAP cuisine et 10 ans plus tard, j'ouvrais un boui-boui, parce que pour moi, je voulais ouvrir un boui-boui à la chez Aline, en fait. Vraiment, le but où, quand je voyais la guinguette d'Angèle, j'imaginais pas ce qu'il y avait derrière à l'époque, rue Coquillère, il me semble. Vraiment, mon rêve, c'était d'avoir cette petite baraque, entre guillemets, et d'envoyer plein de petites choses, en fait. Et un jour, Romain, du coup, pareil, il en a eu marre de son taf. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Romain, on est complètement différents tous les deux. Lui, il a un esprit beaucoup plus entrepreneurial, ce que je n'ai absolument pas, sincèrement. Et donc, du coup, notre duo se complète bien. Et donc, très vite, il m'a poussée à établir un plan d'action pour se dire, on est là, qu'est-ce qu'on fait pour arriver et pour atteindre notre objectif? Et qu'est-ce qu'on fait? Quel format?
Ouais, lui, il voulait entreprendre assez vite, alors que toi, tu te serais peut-être plus laissé le temps d'aller dans des cuisines. T'as fait...
Bah, en fait, j'ai fait mon alternance, c'était à la cuisinière lyonnaise. C'était un bouchon lyonnais dans le 17e, à Argentine.
Oui, il faisait tout maison, hein, tu m'as
ouais,
dit.
Ouais, tout était maison. Enfin, c'était... C'était, j'ai énormément appris aux côtés de Mathieu Salès. Il m'a, ouais, vraiment, c'était génial. Bah, après, c'était 6 sur 7, avec coupure, le grand bain direct. Ouais, ouais, c'était, je me souviens encore de mon premier samedi où vraiment, j'avais jamais ressenti une fatigue pareille, quoi. C'était super intense. En plus, c'était Argentine. Moi, j'habitais à République.
Ah ouais,
je rentrais,
loin,
je faisais une sieste de 30 minutes, je repartais. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment.
À l'ancienne.
Ouais, vraiment, c'est ça.
Et après, changement d'ambiance, café Méricourt.
Absolument, ouais. Café Oberkampf, voilà. Café Oberkampf, j'avais vu cette annonce sur Ospo. Et j'ai rencontré Guy. Et puis, on s'est super bien entendu. Et puis, direct, pareil, le grand bain, je me rappelle que dès le quatrième jour, il me dit, bon, bah, ok, maintenant, tu te mets à envoyer de la shakshuka, parce que c'était la shakshuka à l'époque, là-bas. Enfin, c'était assez la folie, parce que, bah, voilà, c'est un petit format aussi.
Oui, c'est tout petit, ouais.
C'est tout petit, tout petit, tout petit, mais ça déboîtait, quoi. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de passages, quoi.
Et t'avais des avant de te lancer, enfin au moment où t'as changé de voie, il y avait des chefs, des restaurateurs que t'admirais.
Céline Femme, ouais. Céline Femme, j'ai toujours adoré. C'était assez marrant parce que. Lorsqu'elle est venue chez Graham, c'était lors du premier mois, je vois encore Romain à la fenêtre me regarder avec des gros yeux parce qu'il savait très bien que, entre guillemets, enfin en tout cas moi c'était mon objectif, je voulais qu'elle vienne et j'étais très très heureuse de la voir, vraiment. Et c'était vraiment, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est une chef que j'admire beaucoup.
Et c'était un monde que tu connaissais de loin ou que tu côtoyais déjà?
Non, c'est un monde que je connaissais de loin, ouais. Sincèrement, ouais. Apparaître client dans les restaurants, c'est tout.
Donc très vite, Romain avait un plan pour vous, donc de monter Graham, enfin ce coffee shop. Lui, il s'est formé aussi métier pendant un certain temps.
Ouais, c'était la condition. Il a travaillé. Un an au café 5 Pailles à Strasbourg-Saint-Denis, avec Ismée, qui est aussi le boss en termes de café. C'est un coffee shop turc. Et vraiment, c'est un geek, mais c'est un génie dans le café. Donc voilà, il s'est formé à ses côtés. Il a beaucoup appris avec lui.
Et après, vous étiez prêts?
Après,
on
était prêts, voilà. Entre le fait, pendant le moment où on travaillait, on cherchait des locaux, on a eu plein d'opportunités. Aujourd'hui, parfois, on passe devant des choses où on avait fait des propositions qui avaient été refusées. Et on se dit, mais on a failli faire des grosses conneries, sincèrement.
Pourquoi? Est-ce que c'était trop grand? C'était trop...
Il y a un local... Déjà, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Aujourd'hui, bon, l'emplacement est pas mauvais, mais vraiment, c'était pas top. Après, il y avait un deuxième local qui était très très beau, qui aujourd'hui, ça aurait mis un peu de temps à décoller, mais voilà, ça aurait été quand même quelque chose. C'était vers le secteur Paul Bert. Mm-hmm. C'est un ancien coffee shop. Et ça s'est pas fait à cause d'une erreur de bail, etc. Mais on était vraiment allé jusqu'au bout. Et puis après, on est tombé ici via une annonce sur Le Bon Coin. Ouais.
Finalement, les hasards, des fois, font bien les choses.
Vraiment, on a une bonne étoile parce que...
Vous avez mis longtemps à trouver, à monter le projet?
Ah oui. Ouais, ça a mis un an et demi, deux ans.
Ah ouais, c'est
ah
long,
oui,
ouais.
Oui, c'était... Ouais.
Faut être bien accroché. Faut être vraiment surmotivé.
Franchement,
pour,
ouais, parce que... Enfin, en plus, on débarque, on a... Enfin, nous, on avait Guy de Café Oberkampf et Méricourt qui nous a énormément aidés, qui nous a bien épaulés, qui nous a pris sous son aile, qui nous a dit, Je vais vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Il nous a tout expliqué, il nous a présenté les contacts, etc. On avait aussi le papa de Romain qui a sa propre boîte, etc. Qui a bien réussi et donc qui était de bons conseils. Donc on était bien entourés. C'était aussi c'était aussi ça l'important parce que par exemple au tout début on avait embauché un avocat. Qui n'était pas spécialisé là-dedans, donc forcément on avait voulu aller vers le moins cher et en fait on a perdu de l'argent parce qu'après on a dû aller vers quelqu'un d'autre qui coûtait un peu plus cher. Donc enfin plein d'erreurs comme ça où si t'es entouré bah
ouais,
tu les
fais pas ou bon. Ouais, ouais. Après on apprend aussi sur le fait
oui, oui. On fera d'autres erreurs encore mais
et ça s'est passé comment de passer de d'employé à patron?
Bah c'est
patron entrepreneur.
Ouais, c'est compliqué hein, c'est en plus on est jeune, on a une équipe jeune, souvent par exemple ils sont parfois plus vieux que moi en fait mes employés voilà, il faut adopter un management à la cool parce que c'est ce qu'on veut aussi, voilà, on a envie de pas de casser les codes mais on n'est pas dans cette vieille restauration avec cette hiérarchie, etc., etc. Mais donc voilà, c'est assez compliqué aussi de mettre des limites, des barrières, de pouvoir faire en sorte que les gens ils travaillent en fait finalement et que la bonne ambiance règne, mais que tout soit bien respecté en fait. Mais après c'est quand même plaisant de se dire bon bah en fait aujourd'hui je fais ce que je veux. J'ai décidé et si j'en suis là, bah, c'est parce que je le voulais quoi.
Ça a été dur de changer de vie, de passer de votre vie d'avant à à la cuisine.
Ça a été, ce serait pas difficile ou dur le terme, mais enfin oui ça a été. Il y a eu un an très 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 compliqué aussi parce qu'avec l'ouverture de Gram on n'avait pas le temps pour nous, enfin la machine elle était lancée, on n'avait pas du tout le temps de lever la tête et ça nous tombait dessus, enfin on travaillait beaucoup ouais. Et en plus on était en couple donc on était
tout le temps ensemble
ouais. On travaille ensemble, on est tout le temps ensemble, donc vraiment c'était la première année oui si
intense.
C'était intense, là ça va mieux, là on est sur en fait nos 2 ans le 20 février, donc ça va mieux.
J'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais oui. Finalement c'est que 2 ans.
Enfin, oui, c'est que 2 ans, c'est vrai. Ouais.
J'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé une place dans l'offre de la capitale et de, enfin voilà, comme si vous étiez là depuis beaucoup plus longtemps. Enfin. C'est cool. Ouais. Quand vous avez, tu vois, le nom, le côté cuisine parisienne aussi que vous avez tout de suite mis en avant, vous aviez réfléchi, enfin, oui. Comment c'est venu, ouais. Comment vous êtes venu à ça?
En fait, l'idée, c'était vraiment de mettre dans Gram, entre guillemets, notre lifestyle. Pardon pour l'anglicisme, par exemple, au tout début, on a commencé à travailler avec Nanina et vraiment, c'était, j'étais folle d'eux, qu'on habitait juste à côté. Enfin, on habite juste à côté et le jour où j'ai goûté leur ricotta, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça? Et en fait, je parle toujours de Nanina parce que ça me fait, c'est un exemple super parlant dans le sens où ils font un produit italien, leur laboratoire est dans l'11e, leurs bufflones sont en Auvergne. Enfin, et en fait, tu retrouves tout ça, mais à Paris finalement, et c'était vraiment ce qu'on voulait faire, et par cuisine parisienne, c'était vraiment ne pas se donner de limites, pouvoir faire de la cuisine asiatique, méditerranéenne, française, sans se donner de barrières.
Bah, croiser des chemins un peu.
Exactement, croiser des chemins. Et bah, après, c'est aussi facile.
Et à la fois ancré dans des produits parisiens, enfin en tout cas des fournisseurs parisiens, mais créer une cuisine qui a une identité. Urbaine.
Exactement.
C'est urbaine.
Ouais, c'est ça. Urbaine, c'est mon terme.
Ouais. Et Gram, c'est le grammage du café, c'est ça ?
Alors Gram, c'est le papa de Romain qui a trouvé ce nom. Ouais, on est assez content parce qu'en fait on avait un autre nom donc que je ne dirai absolument pas, dont je suis pas très très fière avec du recul et en fait ça nous correspondait pas et il était déjà pris en fait, il était déjà déposé, donc on a dû trouver un nom rapidement comme ça. Et un jour le papa de Romain, en fait le cahier des charges c'était d'avoir un seul mot qui sonne bien, qui puisse être aussi international. Et Gram est venu, et en fait Gram prenait tout son sens par rapport à la pâtisserie, par rapport au café, ça sonnait bien, enfin voilà, c'était parfait quoi. Donc merci Christophe.
Toi t'es en cuisine et Romain il est en salle, vous êtes tout de suite répartis les tâches de façon assez claire entre vous.
Oui, après c'est, enfin. Oui, cuisine et puis gestion et service. Mais bon, moi, par exemple, c'est toujours aussi pour ça qu'on se prenait un peu la tête. C'est que moi, je suis derrière ma cuisine, mais je vois tout ce qui se passe en salle. Et j'ai un œil un peu, on va dire, aiguisé quand le couteau est à droite, est à gauche, etc. Donc toujours, je disais, mais fais ça, s'il te plaît, fais ça. Et donc forcément, moi, normalement, je ne devais pas intervenir là-dedans. Et bon, il y a des petites choses comme ça. Mais après, oui, ça a été assez naturel.
Et vous avez trouvé votre façon de fonctionner finalement.
Oui, ouais. Après, on a aussi trouvé notre façon de fonctionner lorsqu'on a eu des employés. Avoir des tampons entre guillemets entre nous, ça a bien marché. Parce que finalement, la barrière, quand on est un couple, on se permet un peu tout. C'est compliqué d'être... En fait, il y avait quelque chose qui nous avait marqué, qu'on avait lu, c'était « Ok, il existe Marine au travail, il existe Marine à la maison ». On s'était dit ça, juste avant de commencer, on s'est dit « Répète-toi ça, la Marine que tu vois en cuisine, c'est pas la même à la maison ». Et en fait, c'est clairement impossible. Quand tu rentres chez toi, tu parles du travail, tu peux pas être une différente personne si tu t'es pris la tête. Enfin, faut avoir beaucoup beaucoup de recul. Si tu t'es pris la tête le jour même au restaurant pour le soir même.
C'est un autre Romain.
Voilà. Non, c'est compliqué.
Non, je ne lui en veux pas.
Non, voilà, c'est pas possible.
Et vous parlez de boulot le soir, le week-end.
Oui, on parle toujours de travail. Hein. On parle toujours. On parle toujours de grammes. Enfin, vraiment, on pense toujours à plein de choses et.
C'est votre premier bébé.
Exactement, ouais. C'est votre premier bébé, ouais.
Est-ce que vos attentes se sont heurtées à la réalité, à l'ouverture ou sur certaines choses ?
Oui, alors, je parle surtout en termes de fournisseurs, par exemple. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes avec qui je voulais travailler. Enfin, de personnes. De fournisseurs tout simplement, et en fait par exemple avec notre petit endroit on n'a pas beaucoup d'espace de stockage, on a très peu de froid, donc il y a des choses avec, enfin il y a des personnes, enfin des fournisseurs qui proposent des colisages énormes et malheureusement je peux pas travailler avec eux, ou des franco que je peux pas atteindre parce que je peux pas stocker, enfin ouais. Voilà, c'est pas rentable pour moi. Donc il y a j'ai beaucoup de regrets entre guillemets par rapport à ça. Il y a j'aimerais bien être un peu plus... parfois, il y a vraiment des personnes avec qui je voudrais travailler et malheureusement, je ne peux pas. Donc, ça va
c'est
venir.
Frustrant, quoi.
C'est très frustrant. Ouais, c'est très frustrant. J'aimerais pousser plus les choses.
C'est juste une question de place, quoi. Mm-hmm. Enfin, de place ou effectivement de colis, etc.
Exactement.
C'est un peu dur.
Ouais.
Et justement, les producteurs que vous avez mis en avant dès le début sur la carte, sur la carte. Vous les connaissiez tous, vous êtes allés les voir, comment vous avez fait pour travailler avec eux ?
Juste avant Gram, après c'était essentiellement parisien, donc on n'a pas eu besoin de partir avec une camionnette, etc., des bottes. on a surtout, en fait ce qui nous a intéressé, c'était l'humain. On a beaucoup fait beaucoup de rendez-vous finalement, on a vraiment préféré l'humain. Vraiment, je me souviens encore de ce rendez-vous avec Marie-Lou et Charles de Nomi, où on était posés à leur table. Ils ont tout fait sentir, et vraiment on a senti cette alchimie où tu t'es dit tu vas envoyer un texto à Marie Et elle va, pour lui dire, tiens, bah, je fais un nouveau granola avec de la poire. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Et je me souviens toujours, elle a toujours été là, être force de proposition. Et grâce à elle, il y a eu des belles choses, en fait, sur plein de plats, quoi. Et donc, c'était vraiment ce qui comptait.
Et vous continuez à aller chercher des nouveaux fournisseurs,
oui.
Goûter des marchés.
Ouais. Il y a eu la première année, elle était un peu bouchée, mais là maintenant que j'ai un peu plus de temps aussi, c'était ça le but d'avoir des employés. De personnellement, au début, je travaillais 6/7, puis après j'ai réussi à avoir une après-midi par-ci, une après-midi par-là, puis 2 jours d'affilée. Et bon, ça c'était avant le Covid, ouais, c'était fait pour ça. C'était pour continuer à pousser plus loin finalement et à trouver de nouveaux fournisseurs, à ne pas s'ennuyer et puis surtout à mettre de nouvelles personnes aussi un peu en avant.
Et la carte, vous l'avez, tu l'as imaginée comment?
La carte, c'est assez marrant parce que Romain il dit toujours qu'une semaine avant, il y avait rien de vraiment fait. Enfin, j'avais une trame dans la tête, mais je travaille de façon un peu brouillon, on va dire. et parfois, j'ai des choses dans la tête, je vais faire un essai, ça marchera ou ça marchera pas, mais je réessayerai autre chose. Et on savait absolument ce qu'on voulait à peu près, mais la carte, elle n'était pas définie un mois à l'avance. Voilà, j'ai fait mes essais quelques jours avant. Il y avait la brioche au tout début, je me souviens. Au tout début, je la cuisais à la poêle. Bon, après, ça a pris un peu d'ampleur. Donc, je devais la cuire au four. Mais enfin, c'est un truc comme ça qui s'est fait, bon, qui a pris un peu d'ampleur. Mais c'est...
Et t'étais assez... Finalement, t'étais assez... Comment dire, peut-être sereine aussi là-dessus, parce que, enfin, tu savais ce que tu voulais faire au fond de toi.
Oui, oui.
Sans doute, de pas...
Oui. Bah, après, c'est aussi ma façon de travailler. Oui. Bon.
Instinctif.
C'est instinctif. Mais après, c'est une façon de travailler qui est cool quand t'es toute seule, en fait.
Oui. Ouais.
Parce que quand t'as des comptes à rendre, des comptes à rendre entre guillemets, mais on a une équipe avec Romain, donc forcément, lui, de l'autre côté, s'il veut communiquer, s'il veut faire des menus, s'il veut. Voilà, il faut que.
Comment, ou passer les commandes, des fois.
Ouais, c'est ça. Donc. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Ouais, je me fais violence. mais oui, c'est plutôt instinctif, en fait. C'est pour ça que les choses, elles changent beaucoup chez Gram, parce que on aime bien un peu retomber sur nos pattes avec 2-3 brocolis qui vont rester, les rajouter à la soupe. Enfin, je sais pas. C'est aussi comme ça que
fonctionne. C'est une cuisine aussi. Intelligente dans le sens où tu réutilises, tu fais avec ce que tu as.
Mm-hmm.
Beaucoup. Ouais. Et le banh mi dog, qui est devenu un vrai ambassadeur, ça vient d'où?
C'est marrant. Alors, le banh mi, à la base, avec Romain, on a une espèce de passion kebab. D'accord. Rien à voir. Mais à la base, on avait imaginé le banh mi dans un pain pita. Donc, on avait cherché des fournisseurs. Pour cela, qu'on n'avait pas trouvé. On avait fait aussi nos rendez-vous avec les boulangers. Mm-hmm. Donc, on a découvert ce pain brioché du petit grain. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec, quoi. Et du coup, finalement, ça s'est retrouvé, le pulled pork s'est retrouvé dans le pain brioché, dans le lobster roll du petit grain. Et finalement, ok, cool, merci, quoi, parce que ça matchait bien.
Ça a créé une fusion.
Oui, ça a créé une fusion.
Qui est aujourd'hui aussi une partie de votre signature.
Oui, ouais.
Et le banh mi, c'est aussi en hommage à tes origines
vietnamiennes. Oui, ma maman est vietnamienne. J'adore les banh mi. Après, oui, c'est quand même l'emblème de la cuisine vietnamienne. Enfin, on va dire, rencontre française Vietnam. Et oui, je voulais le mettre à la carte. Après, je voulais pas un banh mi traditionnel, donc c'est pour ça qu'il est un peu hybride. Voilà.
Oui, il est parisien.
Il est parisien, et oui, exactement.
Il est parisien. Vous pouvez plus le retirer aujourd'hui.
Non. Ouais. Non. On veut plus le retirer. Après, bon. C'est marrant parce que quand on dessine une carte aussi, ce qu'on avait lu dans les bouquins, c'est qu'il te faut toujours ton produit phare. On l'avait pas imaginé comme notre produit phare, sincèrement, c'était pas dit, là on tient un truc entre guillemets, voilà, ça va être notre icône, ça s'est fait naturellement, donc on était plutôt rassurés. lors de la première semaine, quoi.
Mais et ça te saoule pas, toi, de faire, de le faire tous les jours? Enfin, tu vois, de le fait que aujourd'hui tu puisses pas le retirer, et c'est cool. Et c'est vrai que quand tu viens, tu vois, que tu dis, tu viens des fois, t'as une envie de ça, ou tu partages aussi avec une salade et en tant que client, tu peux être déçu si tu le trouves pas. Mais je me dis, toi, de ton côté, des fois, ça doit peut-être te...
Alors, c'est assez marrant. Parce que me connaissant, j'aurais pu dire oui, mais avec du recul, il n'y a jamais un jour où ça m'a saoulé de faire un banh mi.
Ah.
Ouais, vraiment, je prends toujours autant de plaisir à mettre mes petits pickles dans ma viande, etc. Enfin, dans mon pain. Pour le moment, ça va. Mais après, oui, c'est... Oui, comme tu dis, c'est un peu la chose que... Bah, c'est un peu la chose... Avec le cookie, voilà, c'est...
Répétitif, cookie, mais
ouais,
bon.
C'est ça. Ouais, c'est...
Mais en même temps, c'est rassurant.
Oui, voilà, c'est ça. Ça fait un peu aussi notre identité. Et puis, oui, on va pas lâcher ce banh mi.
Bon, on va passer à l'aller-retour. Ton âge?
29 ans.
Ton plat signature?
Bon, bah, on va dire le banh mi.
Ton plat préféré à manger?
Ah, mon plat préféré à manger? Un ramen.
Le chef que tu admires le plus?
Céline Femme.
Ton ingrédient préféré?
Mon ingrédient préféré? Les petits pois.
Allez, encore quelques semaines et ça va revenir. Ton ingrédient détesté?
Ah, mon ingrédient détesté. Ah, il y a peu de choses que j'aime pas forcément. Après, il y a des aliments que j'aime pas. Enfin, il y a des choses que j'aime pas trop, style la quiche Lorraine, ce genre de choses. Des choses que j'aime pas trop.
C'est pas un ingrédient, non, mais c'est bon, pas un ingrédient. C'est pas grave.
Attends, un ingrédient,
Il y avait un truc que t'aimes pas utiliser, enfin, ou une épice, un truc dont le goût te dérange.
Ah si, ah ouais. Je m'efforce à l'aimer, mais je crois que j'aime pas le goût du chiseau.
Ah.
Ouais, c'est un truc où à chaque fois je me force, mais non, ouais, le chiseau, c'est ça en fait.
Ton ustensile fétiche?
La marise.
Ton dernier meilleur repas?
Ah, bah c'était...
En temps de Covid.
C'était Mokonets. Ouais.
À emporter.
Ouais, Mokonets à emporter. Romain m'a fait la surprise pour mon anniversaire. Et j'étais très très contente de retrouver Mokonets à la maison.
Cool.
Ouais, c'était trop trop bon.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Le meilleur compliment qu'on m'ait fait? Bah franchement, c'est tous ces gens qui viennent à la fin d'un repas nous saluer en cuisine et nous dire que c'était bon, quoi. Et qu'ils sont impressionnés de voir ce qui sort avec ce petit espace. Ouais.
Et la pire critique?
Étant donné que notre cuisine est généreuse, c'est peut-être qu'il n'y en ait pas assez. Mais là, j'ai pas vraiment de.
T'as pas de, ouais, de choses qui t'ont marqué?
Ouais, non, un truc qui m'a marqué, ouais. Non. Ouais,
c'est
non.
Pas grave.
Ça fait un peu.
Tant mieux.
Mais ça fait un peu. Bon, non, rien dit. De...
Tu les as oubliés.
Oui.
Mais c'est bien. Finalement.
Oui, ouais, non, c'est.
Bon, et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi aujourd'hui?
C'est tout, hein. C'est. Oui, c'est mon présent, mon avenir, hein, c'est ma passion, voilà, j'ai pas perdu le... 2 ans après, en y travaillant tous les jours, j'ai vraiment pas perdu la fougue. Vraiment, je suis toujours très très heureuse de venir tous les jours, d'être dans ma cuisine, quoi, d'être chez Gram, c'est ma maison, quoi.
Tu te sens à ta place, en tout cas.
Ah ouais. Oui.
C'est, ça fait 4 ans que t'as entamé ta reconversion, ouais. Et ouais. Ouais.
Exactement.
Tu regrettes pas?
Ah non, je ne regrette pas du tout.
Est-ce que tu te présentes comme chef?
Non. Non. Non, je suis une cuisinière. Je suis une cuisinière.
Tu dis ça si on te pose la question?
Oui. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas dire de moi-même. Enfin, je dirais pas chef Marine.
Tu te sens pas chef?
Je me sens chef parce que je décide de choses. Les choses, elles... je dessine les traits d'une carte, enfin voilà, ce qui se passe chez Gram, je l'ai décidé avec mon équipe. Mais si c'est ça la définition d'être chef, oui. Mais je n'aurai pas la prétention encore de voilà, peut-être dans quelques années lorsque je serai satisfaite que j'aurais coché toutes les cases, peut-être.
Oui. Est-ce que le fait aussi d'être chef d'un coffee shop, ça te renvoie une image moins importante que
peut-être,
si dans un...
Peut-être, il y a aussi le fait que, voilà, j'ai eu mon CAP, j'ai pas pris aussi toute l'expérience que je voulais. J'aurais peut-être voulu approfondir un peu plus certaines choses. Aujourd'hui, j'ai peut-être plein d'idées. Il me manque pas mal de techniques, par exemple.
Tu t'entraînes, tu ou
je m'entraîne, je m'entraîne. Je regarde pas mal de vidéos, etc. Mais après, il y a rien de mieux quand même que d'être en immersion dans une cuisine avec quelqu'un qui va te taper sur l'épaule. C'est vrai que l'apprentissage avec du recul, même si sur le coup c'était chiant, mais en fait finalement, voilà, je me souviens encore de à l'époque où tu disais mais tu me fais chier, ben en fait non. Maintenant c'est ancré et puis. Tu reproduis la même chose avec tes équipes, en fait. Et c'est cool, en fait. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, c'est peut-être la chose. Mais bon, après, tout ça, avec de l'expérience, ça va venir.
T'as combien de personnes en temps normal, on va dire dans... Enfin, vous êtes combien ici?
On est 5-6.
5-6.
Ouais, on est 5-6. Après, on est 4 par service. Ouais. Voilà, on est toujours 4.
De côté salle, de côté cuisine.
Ouais, on peut pas être plus.
Ouais parce que plus. La cuisine, plus de 2, ça
c'est
paraît
ça. Ouais.
Compliqué.
C'est impossible, ouais, c'est impossible. C'est impossible, j'aimerais bien avoir un petit labo en dessous. Mais... Ouais. Ouais.
Un petit labo caché. Le succès est venu super rapidement. Qu'est-ce qui a le plus compté dans cette construction Est-ce que vous vous y attendiez? Comment c'est venu?
Non, on s'y attendait pas. En tout cas, on s'y attendait pas aussi rapidement.
A été fulgurant.
Ça a été fulgurant. Ouais, ouais ça a été fulgurant. Après, on a été aussi bien épaulés. On a eu Mathieu et Charlie de Social Food qui nous ont beaucoup aidés. Que ce soit dans la DA, avec le compte Instagram, les photos, etc. Ça nous a permis de toucher aussi beaucoup plus de personnes qui sont venues les week-ends, voilà, qui voulaient goûter. Parce qu'après, la clientèle en semaine, c'était des gens qui habitaient ici, qui passaient devant et qui étaient curieux et qui travaillaient ici. Mais il y a eu aussi beaucoup de personnes, entre guillemets, influentes qui sont venues. Et puis après, il y a eu un effet boule de neige. Ouais. Et puis après, bah voilà, la machine, elle a été lancée, quoi.
C'est beaucoup les réseaux sociaux qui ont lancé.
C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est important dans la restauration. C'est super important.
Avec le confinement, vous avez aussi lancé une épicerie ambulante, des kits, développé la vente à emporter et maintenant même la livraison.
Qui le fait ?
C'est pas trop compliqué cette période bizarre.
En fait, ce qui est compliqué, c'est de. Parce que c'est assez stimulant. Franchement, c'est assez stimulant parce que quand on regarde en arrière avec l'année qui s'est passée, on a fait plein de choses. Quand on regarde autour de nous avec tous les restaurateurs, il y a plein de choses qui se lancent et c'est assez excitant quand même. C'est sûr que ça nous manque de ne pas pouvoir se poser à table, etc. Mais il y a d'autres modèles en fait qui émergent. Après, ce qui est frustrant, c'est de pas savoir forcément. Bon, je vais répéter ce que tout le monde pense, hein, mais c'est de pas savoir, de pas avoir de deadline un petit peu, même si c'est compliqué. Donc on recommence, on efface, on recommence, on efface. Et en fait, on manque de stabilité. Donc c'est ça le plus compliqué à gérer. Mais après, en termes de chiffres, par exemple, en tout cas, en ce moment, ça va bien. Grâce à justement tout ce que tu viens d'énoncer, on s'en sort. Ouais, on s'en sort. Franchement,
vous êtes revenu aussi à deux, format où vous êtes que tous les deux. Ouais.
On a repris ça et puis après, comme il y a eu du monde, on a dû sortir une cuisinière du chômage partiel. Il y a le frère de Romain qui nous a rejoint dans l'aventure depuis le début d'année. Donc du coup maintenant on est 4 quoi.
Êtes revenu.
On est back comme à la normale finalement.
Et vous allez garder des choses tu penses de la période tu vois les kits justement livraison est-ce que vous
la livraison ça sera pas possible
parce que par faute de place
exactement ouais. par faute de place
Donc, faut en profiter.
Ouais, pour la livraison, oui, c'est sûr.
Qu'on peut c'est pas sûr. Venir forcément le midi, enfin en ouais, semaine. Ça, c'était. Je pense à ça. Ouais.
C'est assez cool. C'est assez cool, oui, de savoir que tu peux toucher un peu plus de personnes finalement sur ton service. Mais après, ça nous a aussi donné des idées pour la suite, et on voit aussi ce qu'il faut qu'on fasse pour la deuxième affaire, quoi.
Vous voulez ouvrir une deuxième affaire ?
Oui, ouais.
Dans un futur proche ?
Dans un futur proche. On espère cette année, d'ici la fin d'année. En tout cas, on sait ce que ce sera.
Un deuxième Gram ou un autre
non. Ouais,
à
non,
autre
non.
chose.
Ouais, on veut complètement. Enfin, on veut surfer sur Gram et sur ce qu'on fait, sur ce qui fait la réussite de Gram. Mais l'idée, c'est vraiment plutôt avoir un monoproduit, avoir plus d'espace aussi pour pouvoir répondre à des. Il y a beaucoup d'offres traiteurs. On nous propose beaucoup de catering, etc. On peut pas y répondre positivement, ouais. Malheureusement. On a aussi envie de pousser tout ça. On a aussi besoin de plus
place,
de place.
Que tu disais, même pour stocker, pour pouvoir travailler avec
exactement.
Certains producteurs.
Donc l'idée, c'est que ce labo desserve Gram, parce qu'on déborde ici, desserve aussi cette partie catering, et ensuite qu'il y ait aussi un point de vente avec un produit.
Monoproduit.
Un monoproduit.
À suivre.
À suivre.
C'est quoi ta plus belle réussite, la chose dont tu es le plus fière dans cette reconversion et dans Gram ?
Tout à l'heure, je te parlais du fait de ne pas me reconnaître comme chef, mais je suis quand même assez fière du parcours que j'ai effectué. Quand tu vois des personnes que tu admires, que tu admirais, que tu n'aurais même jamais pensé côtoyer, qui viennent au restaurant et qui te font des compliments. Moi, je pense aussi à Manon Fleury, par exemple, c'est une chef que j'admire aussi, qui vient manger et qui te dit que c'était bon. Toi, en tant que... Il y a 4 ans, tu ne te serais pas imaginé ça, quoi. Et ça, vraiment, ouais, ça me met des étoiles dans les yeux. Voilà, je me dis, on a réussi quelque chose, quoi. Ça, ouais, c'est une chose dont je suis assez fière. C'est qu'à mon niveau, finalement, si tu peux donner du plaisir aux gens grâce à la nourriture, sans prétendre quoi que ce soit, finalement, t'as tout gagné. Donc, ça, ouais.
Votre rythme de vie a changé ? Vous travaillez plus aujourd'hui ou moins qu'avant ?
Oh. On compte plus les heures. Hein. Ouais, on travaille sans cesse. Ouais, on travaille
mais
sans cesse.
Le plaisir de travailler pour soi.
Oui. C'est complètement différent. C'est autre chose. Je vais pas dire c'est plus du travail parce que forcément dans la restauration il y a cet aspect répétition qui est fatigant. En fait, si on pouvait, mais c'est impossible. Mais toutes les journées. En tout cas, en ce moment, enfin, même avant, elles se ressemblent quand même, quoi. Il y a cette ouverture, service, mise en place, ménage. Et puis, on rentre, on répond aux mails, on se fait même plus à manger. Enfin, voilà, c'est un sacré rythme de vie.
Tu te sens plus libre aujourd'hui, en tout cas, d'être ta propre patronne.
Mais c'est génial. En fait, on peut se dire que tout est possible. Tout est imaginable, on peut faire ce qu'on veut finalement. Enfin, il n'y a pas d'idée folle. T'as envie de faire quelque chose,
T'es le propre.
Ouais.
T'es ton propre. T'es ta propre limite. Donc, effectivement, ça dépend où tu te mets tes barrières.
Exactement.
Mais tu peux effectivement tout faire.
Il suffit d'y croire et puis, forcément, d'y travailler. Mais là, vraiment, ce que nous prouve Gram, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut finalement.
On avait eu cette petite discussion où je t'avais demandé justement pourquoi tu étais partie de la musique, et qui est un domaine qui fait aussi rêver, enfin je pense, ou qui a fait en tout cas peut-être rêver. Et tu m'avais dit justement que tu avais une espèce de lassitude aussi à travailler beaucoup et à finalement voir, je pense, le truc, t'échapper et pas avoir cette liberté.
Ouais, c'est vrai. C'était un métier, c'est comme la cuisine, finalement, c'est un métier de passionné. En fait, bon, j'étais passionnée, hein, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais pas aussi passionnée que la cuisine. Finalement, quand tu travailles beaucoup, tu as aussi besoin d'un peu de reconnaissance de la part des équipes qui t'entourent. Et c'était pas forcément ce que je recevais. Donc, au bout d'un moment, bah, tu perdais aussi confiance en toi. Finalement, tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Donc, il fallait s'accrocher, c'était pas facile. Mais c'est vrai que c'est un monde aussi où tu travailles chez Universal, t'as de la chance quoi. T'envoyais passer 10 000 des CV quoi. J'avais aussi de la chance quand même d'y travailler.
De la chance, mais dans le sens où aujourd'hui, finalement, la liberté aussi. Que te procure la cuisine est plus et plus grande
bien sûr.
Et même si je pense aussi que ça fait partie des choses qui font que la musique peut-être qu'aussi elle fait moins rêver parce que elle est c'est beaucoup de multinationales offrent pas beaucoup de perspectives d'avenir aussi, ce que tu me disais, à long terme, compliqué.
Oui, c'est ça. Après, c'est des carrières aussi. Ouais. T'as des postes, c'est pris, c'est pas pris. Le temps d'arriver là où tu le veux, ça va être encore plus compliqué et puis tu pourras plus difficilement te créer toi-même. C'était un cercle fermé aussi. Alors que la cuisine, finalement, oui, c'est un peu tout le contraire. Il suffit de faire tes preuves pour ensuite créer aussi ton cercle.
À part ce deuxième gramme, vous avez aussi d'autres projets? Pas qu'il y ait déjà beaucoup, hein, deuxième
gramme.
Non,
c'est déjà beaucoup. Après, on a envie d'avoir plusieurs affaires à Paris. Ensuite, le plan, c'est d'aller s'installer dans le sud-ouest, quoi. Qu'on aura trouvé les bonnes personnes pour gérer les affaires à Paris, nous, notre rêve, c'est vraiment de s'installer à Biarritz. Enfin, en tout cas, dans le sud-ouest, pas à Biarritz, mais
dans le coin.
Ouais, dans le coin. Vraiment, ça, c'est l'objectif de vie d'ici quelques années.
Bon, l'interview touche à sa fin. Comme j'ai l'habitude de demander une recette, tu vas pas y couper. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner à la maison? Une petite recette qu'on peut cuisiner
Alors,
à la maison.
Alors, une petite recette. je vais parler de un riz sauté que j'ai fait le week-end dernier pour mon anniversaire, dont on m'a parlé, avec du guanciale. En fait, on a un morceau de guanciale qu'on coupe en petits cubes, qu'on va faire, surtout si on a un reste de vieux riz, entre guillemets, dans son frigo, parce que c'est toujours mieux le vieux riz pour les riz sautés. On fait sauter nos cubes de guanciale, on se fait une petite omelette à côté avec de la sauce soja. On a un petit ciboule qu'on va ciseler une fois que le guanciale est bien cuit, bien doré, on rajoute l'omelette. On fait une belle omelette qu'on va un petit peu brouiller, etc. On rajoute notre riz, on laisse cuire, on laisse bien mijoter. Ça va un peu croustiller en dessous. Et après, on rajoute un peu de sauce soja, hop, la ciboule, et on sert. Et on a un super riz sauté avec des restes le bon gras du guanciale.
Trop bon.
Voilà.
Merci Marine.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter Marine Gora de Gram, épisode 13 de la saison 4. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous au 86 rue des Archives, dans le 3e arrondissement, et aussi pour quelques temps encore sur leur site pour vous faire livrer. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.